France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Qui peut mettre un visage sur Beethoven, ou sur Ravel, ou encore sur Gioachino Rossini? C'est une très bonne question. Et pourtant, ces trois compositeurs ont été d'immenses stars à leur époque. On raconte même qu'à la mort de Beethoven en 1827, plusieurs dizaines de milliers d'anonymes se seraient rassemblés pour suivre le cortège funéraire, laissant aux portes du cimetière celui dont la musique inonde encore aujourd'hui le monde des vivants. Son oraison funèbre s'est terminée avec ces mots: ainsi il a vécu, ainsi il est mort, ainsi il vivra jamais. Être une star ou ne pas l'être, telle est la question. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Mais quel merveilleux démarrage cette émission avec vous, humoriste, chroniqueur, bien connu des auditeurs de France Inter. On est ravis de vous accueillir ici dans cette émission.
Et bien également.
Avec cette danse du Save d'Aram Khatchatourian, reprise ici par Woody Herman et son orchestre. Tiens, y aura-t-il des dizaines de milliers d'anonymes à vos funérailles, Tanguy Pastureau ?
Alors j'espère que non, moi j'aimerais qu'il y ait simplement mes proches et les quelques personnes qui m'aiment vraiment, oui. Mais alors si cette carrière se met à décoller incroyablement et se met à
cartonner... Comme celle de Beethoven ?
Voilà, je ne pourrais pas gérer, malheureusement, on ne peut pas gérer véritablement sa mort puisqu'on est décédé, par
c'est
essence,
pas faux.
Malheureusement.
Cela dit, vous avez choisi de démarrer cette émission avec Aram Khatchatourian, cette danse du sabre, pourquoi ?
Oui. Parce que c'est un morceau qui me rend littéralement fou. Je trouve que c'est tellement plein d'énergie, de folie... On a envie de faire du 110 mètres haies quand on l'écoute, on a envie de dépasser ses objectifs si on est dans le monde de l'entreprise. Il y a une espèce de lyrisme, quoi, et puis d'envoler, quoi. Je connais pas beaucoup de morceaux aussi qui donnent une telle pêche, comme on disait dans les années 80.
On croirait presque qu'il fait beau dehors.
C'est ça.
Ce qui est intéressant dans le répertoire classique, parce qu'Aram Khatchatourian n'est pas non plus le compositeur le plus connu,
non.
C'est que de nombreuses œuvres ont dépassé en notoriété leur auteur. Ça existe aussi dans le jazz. C'est plus effectivement, alors peut-être le compositeur, vous avez choisi, ou l'œuvre en elle-même ?
Ah non, c'est l'œuvre.
C'est l'œuvre.
D'ailleurs, je ne connais rien d'autre de cette personne. Voilà. Mais
je vous ferai découvrir quelques titres en sortant du studio, promis. Vous avez beaucoup écouté la radio petit, Tanguy Pastureau, vous écoutiez France Musique ?
Alors, je n'écoutais pas France Musique. Moi, j'avais des parents qui écoutaient beaucoup France Inter et Radio Bleu à l'époque, qui est devenue France Bleu. Donc, Radio Bleu, c'était comment ? Enfin, c'était Breizh-Izel, quoi. Voilà, la radio en Bretagne, quoi. En gros, donc, il y avait beaucoup de programmes en breton que je ne comprenais absolument pas. Et pour moi, c'était une espèce de... Mes parents comprenaient, parce que mes parents sont bretonnants. Et ce qui était chouette, c'est que justement, j'avais l'impression d'un monde complètement inconnu, qui m'était quasiment pas réservé. Voilà, avec mes parents qui comprenaient, moi qui étais à l'arrière de la voiture, qui ne comprenais rien. Et je sais pas, il y avait quelque chose de magique à ça. J'ai l'impression d'être l'étranger dans mon propre pays, quoi. Ensuite, ado, j'ai vraiment écouté... C'est là que je suis tombé dans la radio, avec les radios libres. Les libres antennes qui duraient des heures et des heures, où les jeunes racontaient un petit peu leurs soucis à des animateurs qui étaient là pour...
Et quand vous tourniez le bouton de votre radio, que vous tombiez par hasard sur une radio de musique classique, vous en pensiez quoi à l'époque ?
Alors, ça m'était un petit peu étranger, mais je me disais que j'avais pas les codes et que j'arrivais pas véritablement à comprendre, quoi. Donc, il y a beaucoup de monde inconnu, en fait, pour moi, parce que j'ai l'impression d'être toujours un peu en décalage et de pas vraiment parvenir à saisir la normalité des choses. Donc, effectivement, une langue étrangère, pour moi, comme la musique classique, c'est un petit peu la même chose, ouais.
Cela dit, vous l'avez découverte, la musique classique, avec une compilation. On va en écouter quelques petits extraits, c'est un vrai régal. Je vous propose de démarrer avec l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini.
Thank you.
dois vous avouer, Tanguy Pastureau, quand vous m'avez envoyé le lien de cette compilation synthétiseur les plus grands thèmes de Classical Masterpieces, sorti en 1990, j'ai éclaté de rire, c'est génial.
Alors il faut se remettre dans le contexte en fait, il y a eu toute une série de compilations synthétiseurs, donc ils ont commencé avec du Jean-Michel Jarre, le thème d'Ushuaïa, etc. Vous savez, à l'époque, Nicolas Hulot était quelqu'un de très respectable, avec, il caressait des aigles et tout se passait très bien, il était en ULM. Et ensuite, je pense qu'au bout de la 7e ou 8e compilation, ils n'ont plus su quoi trouver en fait comme thème au synthétiseur. Et là, ils se sont dit, tiens, on va rejouer les grands thèmes classiques au synthé.
Mais allons-y.
Et c'est là que je suis rentré, moi, dans la musique classique, grâce à cette compilation synthétiseur.
Ça vous a donné envie d'en écouter plus ou moins, ou encore moins qu'avant?
Ça m'a laissé un peu stupéfait au départ, ensuite je me suis habitué. Et je pense que ça, ça m'a donné envie de connaître, mais en tout cas, j'ai connu les premiers airs classiques grâce à ça, ouais.
Par exemple, la marche triomphale de Aïda de Verdi. Le pire, c'est que la mélodie est tellement bien construite que ça fonctionne.
Et il faut savoir que la personne joue avec un doigt, là, seulement.
Ah, un seul doigt?
Voilà, un seul doigt.
C'est vrai?
Il
y a des vidéos?
Alors non, malheureusement, il n'y a pas de vidéo de ça. Voilà, parce qu'à l'époque, on ne filmait pas les gens en train de jouer. Mais
Dommage, ça aurait été des belles vidéos. Allez, on s'en met un petit dernier pour le plaisir. Tanguy Pastureau, la marche turque de la 11e sonate pour piano de Mozart. Et je vais mettre le lien de cette compilation sur la page de l'émission sur francemusique.fr pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent en profiter parce qu'il y en a beaucoup d'autres.
Vous voulez les punir donc? Punir
non,
les gens.
Pas du tout, pas du tout. Loin de moi cette idée. Mais cela dit, qu'est-ce que la musique classique déclenche dans votre imaginaire d'humoriste, Tanguy Pastureau?
Je sais pas exactement. En fait, pas grand-chose, mais c'est plus des références, si vous voulez. Par exemple, quand j'ai envie de dire que quelqu'un est trop bien pour quelque chose, je dis, voilà, c'est comme si un fan de Schubert tombait sur une compilation best-of d'Amel Bent. Voilà, donc pour vous dire à quel point je respecte les gens qui aiment le classique et qui comprennent le classique, et je les vois vraiment comme comme une forme d'élite, quoi. Pas forcément d'élite culturelle, etc., mais des gens qui ont compris un monde que moi, je n'arrivais pas forcément à comprendre. Donc je suis très admiratif, forcément.
La septième de Beethoven, c'est à la fois triste et revigorant. Je vois bien Jean-Yves Le Drian se lever le matin sur la septième en pleurant « Oh, mes sous-marins !» tout en conservant cette niaque qui ne porte pas sur lui mais qui doit être cachée quelque part. C'est ça la musique. Chaque morceau inspire une émotion particulière. Du Barbara, c'est beau et ça donne envie de mourir. Du Jennifer, c'est... ça donne envie de mourir. Du Cabrel, de suite on a envie de se foutre devant un feu de bois, de ressusciter Frédéric Lopez, de croquer face à lui une saucisse certain en le regardant fixement de manière malsaine. La joie des sauces simples comme terroriser les gens qui ont une sexualité classique. Dans Irréversible de Gaspard Noé, à la fin il y a la septième et c'est superbe. On voit Monica Bellucci, donc c'est superbe. Vous balancez là-dessus le gambadou de Patrick Sébastien, ça reste superbe. Elle est allongée dans l'herbe, la caméra tourne autour d'elle, retourne, on a envie de gerber, mais on se retient puisqu'on ne gerbe pas sur du Beethoven. Pour ça on a inventé les chants de marins. Hier, Éric Zemmour, pour sa déclaration de candidature, a choisi la septième. Et il a raison, parce que ce morceau n'a rien besoin d'y ajouter pour insuffler du tragique.
Un extrait de votre chronique, Tanguy Passeros, c'était dans la bande originale sur France Inter le 1er décembre dernier, septième de Beethoven qui avait fait réagir, bouillonner le milieu classique français aussi, c'était Patouche à Ludwig.
Ah ouais.
Vous avez, vous en êtes emparé.
Ah bah, puis moi, ce morceau, il me donne vraiment des frissons. Alors là, ça se voit pas parce que je suis habillé, bien sûr. Hein,
je sais bien le préciser pour nos auditeurs.
Dans la bande originale. Mais non, c'est vraiment un morceau qui me bouleverse. Et effectivement, à la fin de ce film Irréversible de Gaspard Noé, un film qui est très dur, très troublant, qui est même choquant pour beaucoup. Moi, je me souviens qu'à l'époque où il était présenté, les gens quittaient la salle quand même en pleurs, enfin très dérangés, très choqués. À la fin, effectivement, il y a cette scène qui est une scène un peu de lyrisme total et à la fois on a envie de pleurer parce qu'on sait ce qui se passe vu que le film est monté à l'envers, on sait ce qui se passe avant ou après, voilà. Et vraiment là, à ce moment-là, ce morceau est devenu le mien. C'est-à-dire que je sais pas comment vous dire, ça a été un tel choc cinématographique que parfois la bande originale, là c'est une bande originale classique, mais on se l'approprie aussi quoi. Et là, ça m'a vraiment transporté et effectivement Éric Zemmour pour son clip de campagne ensuite a repris ce morceau et je comprends ce choix en fait, voilà. On comprend pas forcément politiquement tel ou tel programme, mais quand une personne se saisit d'un morceau, elle le fait pas absolument par hasard. Faut se souvenir que quand même Trump faisait ses meetings sur YMCA de Village People, ce qui était ridicule. Et là, effectivement, prendre du classique, on se dit que cette personne veut rentrer dans la légende d'une certaine manière.
On parlait de respect tout à l'heure, ça en fait quelqu'un de respectable ?
Non, je pense pas, parce que justement, c'est un peu facile en même temps, quoi, de saisir de l'émotion d'un morceau qui emporte tout comme ça.
Ça fait partie des grands clichés, en
fait. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas été chercher un morceau un petit peu obscur, et à la fois, je pense que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien non plus. Comme moi, donc il va chercher le premier morceau venu, quoi, et ça marche en fait.
France Musique, Saskia Deville.
Tanguy Passeros, ce n'est pas la première fois que vous abordez la musique classique dans vos chroniques à la radio. Il y en a eu une autre sur Beethoven avec cette polémique autour de la cinquième de Beethoven. Il y en a eu une autre en Inde, le ministre des Transports qui songeait à remplacer les sirènes de police et des ambulances par des airs de flûte.
Oui,
qui
c'est vrai.
Beaucoup fait rire.
C'est vrai.
Un instrument, je crois, qui vous a traumatisé.
Absolument. Parce qu'au collège, tout le monde fait de la flûte, en fait. C'est normalement, voilà, j'en parle encore avec beaucoup de rage, parce que vraiment, ça a brisé ma jeunesse. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un prof de musique, qui malheureusement, parce qu'il n'a, je pense, pas de budget pour demander, et puis les parents n'ont pas de budget pour acheter une guitare à chacun, il nous fait acheter une flûte à l'époque à 20 francs. Quoi.
Une vilaine flûte en plastique, préciser.
Voilà, avec son petit étui en plastique également, tout en plastique. Aujourd'hui, on la ferait en bambou, bien sûr, pour préserver la planète, cette flûte.
On est d'accord.
Et on se retrouve comme ça, je crois, en classe de 6e, avec 30 gugus dans une classe, en train d'essayer de souffler dans une flûte, donc vous imaginez un peu la vie de ces profs de musique, qui à la base étaient des gens qui aimaient la musique et qui se retrouvent face à 30 cons en train d'essayer de souffler dans une flûte. Donc c'est tragique en fait. Ce sont des gens qui ont complètement raté leur vie.
C'était votre seule approche de la musique petit,
Non, moi mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais ils écoutaient plutôt de la chanson française, type Brassens, Renaud, etc. Donc c'est ce qui m'a familiarisé avec l'écriture, avec l'ironie aussi, avec l'humour. Mais très peu de musique classique. De la musique bretonne, quoi. Voilà, les Trianes, etc. Enfin là aussi des choses que je comprenais pas tellement. Ensuite, ils m'ont emmené beaucoup au Festival de musique interceltique de Lorient, où je me suis tapé, je pense à l'âge de 6-7 ans, des concerts interminables de harpe celtique qui duraient 3h30. Enfin, moi, j'ai essayé de me suicider en me taillant les veines avec la coudoir du siège. C'était horrible. Enfin, c'était horrible. Je pense que ça avait une forme de lyrisme aussi, bien sûr. Mais à l'époque, évidemment, je comprenais pas. En tant qu'enfant, moi, j'avais envie de plus d'amusement, en fait, quoi. Et tout ça me paraissait tellement austère, tellement sobre, tellement celtique, en fait, quoi. J'avais envie de sortir de là. Et maintenant, finalement, de manière paradoxale, c'est une culture qui me plaît beaucoup. Et je pourrais écouter comme ça de la harpe, je pense, pendant une heure, en y trouvant une sorte d'extase et en pensant aux druides là-bas, dans la forêt de Pimpon.
Rappelez-moi de vous conseiller encore quelques petites choses à écouter voilà. En sortant de ce studio, Tanguy Pastureau. En parlant d'amusement, on va passer à votre choix musical suivant. Oui. Éloge du jeu, du vin et de la chair, inspiré par la brièveté de la vie ou les aléas de la destinée. Ah. C'est le sujet de Carmina Burana, de Karl Orff. Tout début de Carmina Burana de Karl Orff, joué ici et chanté par les chœurs et orchestres de l'Opéra allemand de Berlin et Eugène Jochum à la direction. Votre choix, Tanguy Pastureau.
Oui, et ben ça c'est le morceau typique de musique classique qu'aiment les gens qui ne connaissent rien à la musique classique.
Ah, vous croyez ?
Oui, absolument. Bah oui, Carmina Burana, c'est tellement. Et moi j'ai découvert ce truc-là en fait parce qu'une fois j'ai vu comme ça à la télé, il diffusait un concert de Michael Jackson et il arrive sur Carmina Burana en fait et ce qui crée un truc absolument incroyable, c'est que les gens sont déjà en liesse avant même qu'il ait produit le même effet ou qu'il ait commencé à chanter. Et après ça, je trouve que le concert met du temps à démarrer parce qu'en fait c'est tellement fort que ses chansons à lui à côté, ça marche pas quoi. Mmh. Et il met 15 minutes après à essayer de rattraper la foule et à insuffler
l'énergie. Ce qui est étonnant quand on s'appelle Michael Jackson.
Mais oui, mais moi je trouve, après les fans de Michael Jackson diront il était formidable, etc. Mais moi je trouve que justement prendre un morceau si fort en fait en début, en entrée, qui n'est même pas un morceau à lui, bien sûr, déjà. Mais ça plombe vraiment le début du concert. Il faut toujours commencer par un truc. Enfin,
Nul.
Voilà, un peu nul, quoi.
Ressortons la compilation santé,
voilà,
peut-être.
Ou du vieux R&B des années 80. 90 ou un truc comme ça. Mais
Alors, peut-être le ferez-vous, changerez-vous le début de votre spectacle, Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau n'est pas célèbre, vous êtes en tournée actuellement un petit peu partout en France. Après-demain, ce sera à Grandville, à l'Archipel. Mais alors, c'est complet, mais plein d'autres dates, notamment le 13 janvier, Gare du Midi à Biarritz. Le Zénith de Pau, ce sera le 14 janvier, des dates jusqu'au 2 juin. Tout cela se retrouve sur la page de l'émission, sur francemusique.fr. Puis on vous retrouve évidemment aussi en radio, Tanguy Pastureau, du lundi au vendredi à 12h17 dans la bande originale sur France Inter. Et puis sur Twitch, avec notre copain Alex Vizorek, évidemment, le jeudi de 13h30 à 15h.
C'est vrai.
On va se quitter avec Brahms, Johannes Brahms. Et ça, vous me faites vraiment plaisir, Tanguy Pastureau, parce que c'est vraiment un mouvement absolument sublime, troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms, joué ici par Claudio Abbado, l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Vous nous dites pourquoi ?
C'est à cause de Gainsbourg.
Voilà.
C'est ça, parce que Gainsbourg s'est tellement inspiré en fait de morceaux de musique classique, il y en a énormément. Moi je suis grand fan de Gainsbourg, j'ai compris beaucoup plus tard en fait qu'il avait quasiment tout, on va pas dire pompé, mais c'était une
pas
sorte
tout,
de...
Pas tout, mais une véritable source d'inspiration.
D'inspiration, c'était une sorte de sample de l'époque, quoi, comme on fait les rappeurs ensuite. Et voilà, moi je suis revenu à la source ensuite, c'est-à-dire que les petites chansons, j'ai découvert que derrière il y avait des grandes mélodies, et que ces mélodies, elles étaient dues à d'autres gens. Et ça me dégoûte pas de Gainsbourg, mais ça m'a tourné vers effectivement
ça va vous a ouvert
tous ces compositeurs.
À la suite, ou à ce qui a précédé du moins. Merci beaucoup Tanguy Pastureau d'être venu nous voir, c'était un plaisir.
De même.
En tout cas, et puis merci à l'équipe Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Titouan Oex. Chères auditrices, chers auditeurs, très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.